Pierre Dubois, est-ce qu'on peut aller voir dans votre jardin si on croise quelques fées?
Oui, bien sûr. Lorsqu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre.
C'est l'endroit où se trouvaient nos fées. Mais elles n'y sont plus. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être rapidement ce qu'on voit dans ce jardin qui est très verdoyant, avec un beau sol pleureur, une grange en briques rouges. Je crois qu'il y a un petit ruisseau au fond du jardin.
Oui, 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 oui. Et là, près de la rivière, donc il y a la fée du bras de mer par ici. Cette fée du bras de mer qui emportait ses victimes, qu'elle entraînait jusqu'à la mer. Et donc le ruisseau donc continue encore son chemin, c'est l'Helpe. Il y a tout un monde, hein. c'est un royaume les fées. Il y a des fées rouges, il y a des fées noires, il y a des fées de toutes les marraines fées gentilles. La fée, c'est un reflet. C'est un reflet de ce qu'on est aussi, mais intérieurement.
Et elle s'y a crié. Elles sont venues, elles sont sorties.
Les fées de Cottingley, par Juliette Hamon et François Teste. Premier épisode, photographier le merveilleux.
La première photo a été prise par Elsie et représente Frances, qui a donc 11 ans. Elle est couchée dans l'herbe, et devant elle, il y a 4 fées en activité, c'est-à-dire qui font de la musique, qui dansent. Ce sont des jolis personnages féminins avec des grandes ailes. Ce sont évidemment des photos en noir et blanc, on est en 1917. Cependant, c'est une photo où l'on voit quand même qu'il y a une cascade sur la gauche au fond, des brindilles partout, et derrière les 4 fées, le visage de Frances, qui regarde sa cousine en train de prendre la photo.
La fée, c'est un reflet, annonce l'elphicologue Pierre Dubois entre deux pas dans son jardin. Les fées, comme les lutins ou les gnomes, sont le reflet d'une époque. On appelle leur bénédiction et on craint leur courroux. Fuyantes, on se les représente selon les souvenirs d'une rencontre fugace. On tente de saisir leurs sentiments en les dessinant, en les peignant ou en les gravant dans la pierre. Et puis un jour, l'appareil photo fait son entrée dans les foyers. En 1917, la photographie en est à ses balbutiements. On ne comprend pas encore tous ses pouvoirs révélateurs, on cherche l'étendue de sa capture. Son inquiétante étrangeté fascine et la rapproche des milieux spirites. Peut-être que la photographie sera l'outil tant attendu pour figer et révéler l'existence du petit peuple. En tout cas, cette hypothèse va bouleverser la vie d'Elsie et Frances, deux jeunes cousines anglaises vivant dans le village de Cottingley.
L'histoire commence au printemps 1917.
Mary Burrow, chercheur en littérature victorienne.
Frances Griffiths a vécu en Afrique du Sud avec ses parents jusqu'à l'âge de 9 ans. Sa famille avait déménagé en Afrique du Sud en raison des problèmes de santé de sa mère. Son père, qui était dans l'armée, a été rappelé en Europe pour se battre sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. La famille est donc revenue en Angleterre, le père est parti à la guerre, et Frances et sa mère se sont installées chez la tante Polly, l'oncle Arthur et leur fille Elsie à Cottingley, un petit village du nord de l'Angleterre. Et c'est ainsi que Frances Griffiths et Elsie Wright se sont rencontrées. Elles étaient cousines, mais avaient grandi dans des pays différents, dans deux endroits du monde très différents. Frances se sentait comme une étrangère à son arrivée en Angleterre. C'était le printemps, il faisait très froid, il y avait encore de la neige, elle n'en avait jamais vu auparavant. Le Yorkshire traversait un épisode de sécheresse. Elle vivait dans une vaste demeure en Afrique du Sud. Et maintenant, elle se retrouvait dans cette petite maison qu'elle et sa mère partageaient avec la famille de sa cousine. On y était à l'étroit, tous s'inquiétaient beaucoup pour son père. Cet environnement difficile a donc servi de toile de fond à ce qui s'est joué ensuite. Comme je l'ai dit, la maison était exiguë. Il y avait deux pièces au rez-de-chaussée, deux pièces à l'étage. La chambre à l'étage, occupée par Francis et Elsie, avait une fenêtre qui donnait sur le jardin derrière la maison. Au-delà, il y avait un petit ruisseau qui traversait un bois et longeait des prés. Et c'est là où Francis et Elsie ont pris des photos de leur fille.
Le décor est donc un petit village anglais. Elles sont dans cette petite maison,
Natasha Henry,
dans une petite ruelle tout à fait britannique. Et au fond du jardin, on peut accéder à un petit ruisseau avec des arbres. Et c'est très joli, c'est très campagnard, c'est très pluvieux, c'est très vert. Et donc l'histoire va ainsi débuter, que les deux cousines vont se promener dans la campagne parce que la grande veut montrer à la petite son univers. Enfin, où est-ce qu'elle va passer maintenant quelques mois, quelques semaines, on ne sait pas, jusqu'à ce que la guerre termine et qu'elle récupère sa vie familiale donc auprès de son père, qui serait peut-être à ce moment-là rentré des tranchées. On ne sait pas, évidemment, parce que pendant toute la durée de l'histoire, ce monsieur, comme 3 millions de soldats britanniques, se bat de l'autre côté de la Manche. Dans ces villages du nord de l'Angleterre, comme en Écosse, comme dans certains coins d'Allemagne, dans ces villages-là, on croit à l'existence des fées. On croit qu'il y a tout un monde qui vit dans les sous-bois, dans les fougères, des lutins, des gnomes, des fées, qui font de la musique, qui font tout un tas d'activités, parce qu'on ne les dérange pas.
Pour les fées de côte anglais, c'est possible en Angleterre. En France, c'est pas trop possible.
Pierre Dubois.
C'est vrai que nous, on a subi en France le cartésianisme et le jacobinisme. Et ça, c'est terrible parce que ça nous donne un état d'esprit. On n'a qu'à voir la nature, un jardin à la française et un jardin à l'anglaise, c'est tout à fait différent. Le jardin à la française, c'est « je ne vois qu'une seule tête », avec, pof, au milieu, le roi. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Ça réduit l'imaginaire, ça réduit la floraison. Les Anglais, non, ils font un parc, un jardin, mais en même temps, ils laissent des coins pour que les fées puissent venir y danser. C'est pas pour rien si Rackham dessine les jardins de Kensington avec plein de fées qui volettent, et Peter Pan qui peut passer, on peut le faire. Donc il y a une grande différence. Ça nous semble incompréhensible pour nous de pouvoir croire aux fées et que des enfants ont brusquement deux petites filles en disant, en montrant une photo de fées, révolutionner toute l'Angleterre victorienne, qui était pourtant guindée, qui était vraiment fermée. Mais l'Angleterre a toujours connu les peintres, les pré-raphaélites. Ils lisent Shakespeare au départ, les enfants. Nous, non. Les fées, quand on va en Angleterre, dans les pubs, chaque pub a un fantôme. L'Angleterre est ouverte au merveilleux. Il faut voir la différence entre notre littérature et la leur. Donc, va dire combien le conte de fées est important. À la Noël, on se raconte des histoires de fantômes. Dickens écrit l'histoire de Scrooge. Il y a un climat que nous n'avons pas vraiment, ni dans les jardins, ni dans toutes ces petites maisons. Toutes les pixies sont là.
Les sorciers, les fées dansent sur le coteau. Leurs pas brûlants font des huit noirs sous les métailles. Ils dansent de la nuit venue au jour nouveau pour honorer le saint qui nourrit les abeilles.
Méric Borot, que se passe-t-il en 1917?
So in 1917, they are living
en 1917, ils vivent ensemble dans la petite maison. Pendant un certain temps, Francis se sent très seul. Il y a une grande différence d'âge entre elle et sa cousine Elsie. Frances avait 9 ans, Elsie en avait 16. Donc, Frances et Elsie passaient du temps ensemble, mais il semble que Frances était souvent seule. Elle se réfugiait au fond du jardin et se faisait souvent disputer par sa mère et sa tante parce qu'elle revenait avec ses chaussures mouillées. Un jour, sa mère, exaspérée, lui a demandé pourquoi elle allait tout le temps dans le fond du jardin. Et Frances a répondu qu'elle allait y voir des fées. Sa mère et les autres adultes se sont alors moqués d'elle. Mais pas sa cousine Elsie, qui l'a défendue et a dit qu'elle les avait aussi vues au même endroit. Donc c'est resté un sujet de moquerie pendant des jours, des semaines. Et c'est ce qui a incité Elsie à imaginer un plan de riposte. Un jour, après de nouvelles moqueries, elle a demandé à son père de lui prêter son appareil photo. Elle avait l'intention de leur prouver qu'il y avait bien des fées dans le jardin. Son père a accepté et elles ont disparu dans le fond du jardin et sont revenues un peu plus tard avec les négatifs exposés. Et Arthur, le père, qui avait aménagé une chambre noire dans la maison, a développé les photos. Et quand il a fini, il a vu une photo de fée dansant sous le nez de Frances.
Voilà la toute première photo. Alors on voit très nettement qu'elle ne les regarde pas, alors que pourtant elle devrait être ravie et émerveillée de ce petit monde qui tourbillonne. Et non, elle regarde l'objectif.
Je crois qu'elle a aussi comme une couronne de fleurs dans les cheveux.
Oui.
C'est comme pareil pour rentrer en communion.
Voilà, tout à fait. Mais c'était ça. C'est qu'en fait, c'est ce qu'elles y allaient. Elles allaient quand même dans les bois pour les rencontrer. Là, voilà, encore... Elsie avec une petite fée. Alors, on voit très bien quand même que elle, c'est une fée de l'époque victorienne. Enfin, vraiment, elle a une coiffure. C'est une fée très svelte, avec une robe Charleston, comme pratiquement un petit peu, quoi, des années 30, et avec des ailes transparentes.
Frances Griffiths.
Sur la première photo, il y a une cascade à l'arrière-plan. Frances Griffiths a un coude posé sur le talus devant elle et son menton repose dans le creux de sa main. Et il y a un groupe de 5 fées qui dansent devant elle. L'une d'elles joue de la flûte et les 4 autres sont tournées vers elle. Frances regarde la caméra sans paraître s'intéresser aux fées. Elle fixe Elsie, qui prend la photo. La deuxième photo a été prise un peu après, parce que les parents n'avaient pas été convaincus par la première. Ils ne pouvaient pas l'expliquer, ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils se doutaient qu'il y avait un trucage. Alors Frances et Elsie ont repris l'appareil, sont retournées au fond du jardin, puis sont revenues avec le deuxième négatif. Cette fois, c'est Frances qui a photographié Elsie. Celle-ci est assise dans l'herbe, elle porte un chapeau en forme de cloche, et il y a un lutin qui danse devant elle. Elle le regarde en souriant.
Après la guerre, elles vont faire d'autres photos, deux autres photos.
Natacha Henry, autrice de l'affaire des fées de Cottingley.
Une photo, c'est de nouveau la grande qui prend la petite en photo. Donc Elsie prend Frances en photo. Frances est vue de profil, elle a un bonnet blanc dans les cheveux, elle a des longs cheveux et une robe blanche. Et elle est de profil en train de regarder une fée qui danse aussi, qui a les bras en l'air et des jambes gracieuses et des grandes ailes derrière. Donc ce sont des proportions tout à fait réalistes. Il y a une jeune fille et en face d'elle, il y a une fée qui doit faire 20 cm de hauteur. La quatrième photo, elles ont de nouveau inversé. C'est donc Francis qui prend la photo de Elsie, et c'est une fée qui offre des fleurs à Elsie. On voit aussi la cascade derrière. Très bien. Et puis, il y a la cinquième photo qu'on appelle les fées prenant un bain de soleil, où on voit des fées, effectivement, dans les herbes, dans les brindilles et quelques fleurs, peut-être. C'est une photo un peu moins claire. Et surtout, il n'y a aucune des deux cousines sur cette photo. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui l'a prise.
Les fées, c'est à la fois le destin. Au départ, c'était les parcs, les normes. L'enfant naissait. Elles étaient trois. Les trois fées marraines se penchaient avec leur quenouille, qui allait devenir plus tard la fameuse baguette magique. L'une dévidait le fil de la vie, la seconde le tramait, et la troisième plus tard le couperait. Mais c'est aussi la fée, celle qui nous suit toujours, c'est la nature, sur les esprits de la nature également. C'est un prolongement merveilleux de la nature. La fée, c'est le lien entre l'homme ou l'enfant, ou ce qui reste d'enfant dans l'homme, et la nature. Imaginez, elle fait le trait d'union. Il y a des fées de l'air, mais il y a des fées du feu. Ce sont des quatre éléments qui se matérialisent, si on peut dire, dans l'immatériel pour apparaître.
Mary Borrow, que se passe-t-il ensuite en 1920?
Trois ans plus tard, la famille ne pensait plus guère aux photos. Les filles avaient maintenu qu'elles avaient bien photographié des fées, qu'elles les avaient bien vues et qu'il n'y avait eu aucun trucage. En 1920, la mère d'Elsie s'est rendue à l'Institut de théosophie de Bradford. C'était un endroit où l'on croyait aux esprits de la nature, à la télépathie et à la communication avec les esprits de différentes sortes. La théosophie était une forme de religion basée sur une sorte de philosophie naturelle, en particulier sur l'idée selon laquelle la nature est animée par les forces spirituelles. Les théosophes croyaient que les fées font partie du monde naturel, qu'elles nourrissent les fleurs, les arbres, etc., et qu'elles les aident à pousser.
Mireille Berton, maître de conférences en esthétique du cinéma.
Le spiritisme qui est né au milieu du 19e siècle défend la thèse de la survie de l'âme après la mort et notamment l'idée que le monde de l'au-delà est peuplé d'êtres supérieurs amenés à guider l'humanité vers le progrès. Donc amenés à favoriser le développement de l'intelligence et de l'âme. Et l'une des ambitions principales de ce mouvement, c'est de promouvoir une vision du monde plus égalitaire en proposant une alternative aux religions dominantes et notamment au catholicisme. Et il va connaître un succès dans certains milieux sensibles aux utopies sociales et pacifistes, convaincus par l'idée d'une communion possible entre humain et esprit. Le spiritisme a à ce moment-là un rôle social à jouer, en particulier parce qu'on est dans un moment charnière de l'histoire occidentale. On est durant la Première Guerre mondiale et des parents qui ont perdu par exemple leur fils à la guerre, au combat, espèrent pouvoir entrer en contact avec lui dans le monde des morts. Alors les séances de spiritisme vont permettre de consoler les personnes qui sont endeuillées, d'atténuer aussi la rupture entraînée par la mort d'un être cher, mais aussi d'assouvir un besoin de connaître l'avenir, puisqu'on est dans une période, dans des temps qui sont particulièrement troublés.
Donc la mère d'Elsie Wright s'est rendue à l'Institut de théosophie pour écouter une conférence sur la vie des fées. Et à la fin de la causerie, elle a parlé des photos prises par les filles trois ans plus tôt. Les personnes présentes se sont immédiatement montrées intéressées. Elles lui ont demandé s'il était possible de voir les photos, s'il était possible de les emprunter. C'est ce qui s'est passé. Des copies ont alors été faites. Cette histoire est remontée jusqu'à la direction de la Société de théosophie à Londres et à un homme nommé Edward Gardner qui se passionnait pour les fées et avait donné des conférences sur le sujet. Gardner est entré en contact avec la famille par l'intermédiaire de l'Institut de Bradford. Il souhaitait voir les photos, les emprunter pour en tirer de nouvelles copies et les utiliser dans ses conférences. Et c'est ainsi que la petite histoire a commencé à prendre de l'ampleur.
La photographie est utilisée par les partisans du spiritisme pour attester l'existence des fantômes ou la production d'ectoplasmes par des médiums à matérialisation. Elle est donc principalement employée pour apporter une preuve visuelle, matérielle, de l'existence de l'au-delà, pour sa capacité à conserver des traces, des phénomènes fugaces. En résumé, elle est utilisée pour sa force probatoire. Elle est perçue comme une méthode d'investigation qui va apporter une preuve objective que les sens n'ont pas été trompés, qu'ils n'ont pas été victimes d'illusions visuelles et que personne, lors de cette séance, n'a halluciné, par exemple, une lévitation de table, deux médiums, un fantôme ou un ectoplasme. Et l'enjeu est très important, il est de taille, puisqu'il s'agit de démentir les accusations de fraude qui pèsent alors sur les médiums, à travers une technologie emblématique de la modernité à laquelle on prête des vertus documentaires, intrinsèques en fait à son fonctionnement, à son mode de fonctionnement. Donc, pour le dire plus simplement, la photographie participe d'un discours de la preuve qui est nécessaire à la légitimité d'idées qui sont à l'époque controversées.
Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Si tu es là, qui es-tu ?
Les photos vont être envoyées à des experts qui vont allumer des lumières par en dessous, qui vont regarder par au-dessus, qui vont avoir des théories diverses et variées. Certains vont mettre en doute la véracité des photos. Certains vont dire « c'est quand même bizarre. Pourquoi sur cette première photo, Francis regarde l'objectif ?» Alors qu'il y a devant elle quatre fées qui dansent. C'est quand même important dans la vie, quand quatre fées se présentent à vous, vous regardez les fées. Vous n'êtes pas en train de regarder l'objectif. Donc ces photos sont fausses.
Mary Borrow, à ce moment-là, comment est-ce que les photos sont-elles authentifiées ?
First of all, they wanted to get some independent verification.
Tout d'abord, les théosophes ont voulu les faire examiner de manière indépendante pour savoir si elles avaient pu être trafiquées. Ils ont apporté les négatives chez Kodak, le spécialiste de la pellicule photographique, et ont cherché à savoir s'il y avait eu recours à une double exposition ou à un autre trucage utilisé à l'époque, notamment dans le milieu des spirites. On prenait la photo d'une personne et une fois développée, un fantôme ou un spectre apparaissait au second plan. Il voulait éliminer cette possibilité. Les négatifs ont donc été confiés à Snelling, un expert en matière de photos truquées, et il n'a vu aucun signe de double exposition ou de maquillage. Il a dit qu'il n'y avait eu qu'une exposition et que les photos avaient été prises en extérieur et non dans un studio où l'on pouvait trafiquer l'image.
C'est incroyable pour ces femmes. Elles ont su que les fées existaient. Et maintenant, elles voient les fées en photo. C'est pour elles le plus beau jour de leur vie. Évidemment, tout cela sur fond de Première Guerre mondiale. Donc c'est important de penser qu'il y a un monde parallèle, c'est important de penser qu'il y a des gentils êtres qui batifolent dans les fougères et qui créent un monde meilleur pendant que se passe en Europe l'horreur la plus absolue. Évidemment, il y a ce contexte. À partir de là, les mères commencent à raconter au village que les filles ont vu des fées et qu'on en a la preuve matérielle. Donc ça commence un peu à se répandre. Et puis, ça arrive à la connaissance de Sir Arthur Conan Doyle. Et là, évidemment, l'histoire prend une dimension encore plus folle parce qu'il est très connu. Et lui, il aimait croire à l'histoire des fées. Et maintenant qu'il a cette photo, il va écrire des articles pour corroborer la véracité des photos.
Et voilà, petite feuille qui sauve là. Elle saute, et voilà. Mais... Une histoire commence comme ça hein, pour le... Alors là, c'est un if. Je voulais un if comme Robin des Bois. Là. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas tous ces arbres. Et puis donc, on va descendre. Il y avait une mare. Alors là, la mare, c'est... sont habités dans la région, dans le nord, par des marigrouettes. Marigrouette ou marigrouette ou marigrouette, sont les esprits de l'eau. Et les enfants qui allaient jouer près des mares, les mamans disaient « Fais attention, me fuis, parce que la marigrouette va venir te chercher. » Mais il y a tout aussi un langage des fées, même si on ne les voit pas. Il y a un petit peu les fameuses coïncidences... ou des signes de l'au-delà, des signes des fées, des signes de celle qui est partie et qui, par des signes, interpelle. Je suis là. Pourquoi, brusquement, il y a une goutte d'eau qui tombe, il y a, à ce moment-là... Parce que les petites Elsie Wright et sa cousine savaient très bien que c'était un jeu, mais elles y croyaient aux fées. Elles avaient envie, justement, d'y faire croire, parce que c'est un bonheur. Ici, par exemple, il suffirait d'un moment qu'on soit seul. Au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Il se passera toujours quelque chose. C'est un langage qu'on a avec la nature. Si on pressent la nature, si on se laisse envahir par la nature et en même temps donner aussi à la nature, à un moment donné, tout s'éclaire. Tout s'illumine, on ressent tout de suite des choses. Et l'enfant le sent. L'enfant qui va dans la nature tout seul ressent ces choses. Et en plus, si elles sont deux et deux filles qui aiment ça, qui aiment la féerie, tout de suite, les fées viennent. Elles sont toutes heureuses de trouver des enfants qui vont jouer avec elles.
C'était Les Fées de Cottingley, avec Mireille Berton, Méric Bereau, Pierre Dubois et Natacha Henry. Avec la voix de Lise Combe, traduction Thierry Beauchamp. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Juliette Hamon, réalisé par François Teste. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.